À voix nue. Cette semaine, Dany Legras rencontre Jacques Berès. Ce soir, le sentiment d'abandon.
Bonsoir Jacques Berès.
Bonsoir.
Vous êtes né à Paris en 1941, vous êtes chirurgien, cofondateur de Médecins Sans Frontières et des Médecins du Monde. Vous avez effectué plus de 160 missions sur des zones de guerre et vous avez opéré au Congo, au Tchad, au Soudan, en Syrie, en Irak, au Vietnam, au Libéria, au Rwanda, en Tchétchénie, en Libye, dans la bande de Gaza, au Bangladesh, etc., etc. Depuis donc 50 ans, vous essayez de sauver des vies en opérant parfois 12 patientes par jour. Vous avez réalisé plusieurs missions humanitaires clandestines, notamment en Syrie en 2012. Vous dites que l'humanitaire est comme une drogue dure et vous vous imposez une règle, une seule. Quelqu'un est blessé, vous les soignez. En préparant cet entretien, Jacques Berès, j'ai appris que vous vous considériez comme un champion du monde de l'abandon. Abandonné, vous l'avez été deux fois. Une première pendant la guerre, où on vous a confié à une nounou marseillaise pour échapper aux rafles. Vous n'avez donc connu vos parents qu'à la libération, à l'âge de 3 ans. Puis vous avez été abandonné une deuxième fois, quand vos parents se sont séparés car votre mère est partie vivre au Brésil sans donner des nouvelles. Je précise que votre père, Pierre Berès, était un éditeur et un libraire très reconnu. C'est quoi être un champion du monde de l'abandon, Jacques Berès ?
Non, je ne pense pas être un champion du monde, mais comme vous l'avez rappelé, j'ai été abandonné deux fois. Le vrai problème au-delà, c'est la façon dont je l'ai appris. Car le deuxième, au moment de la séparation de mes parents, oui, j'étais au courant, je l'ai pris dans la tronche, mes petites sœurs aussi, mais le premier... Quand j'étais vraiment bébé, ce qui est stupéfiant, c'est que je ne l'ai appris qu'après la mort de ma mère, donc des décennies après. Ce qui veut dire différentes choses. Ce qui veut dire surtout que c'est une famille où on parlait très peu. Entre ces membres d'une famille qui n'était pourtant pas une famille très nombreuse, très développée, puisqu'il y avait, au début des choses, il y avait un papa, une maman et puis 3 enfants. Très peu de cousins, oncles, neveux, c'est plutôt petite famille. Et j'ai appris après la mort de ma mère, en trouvant dans les papiers... un tout petit livre en marocain rouge, très élégant, qui était censé être un journal à deux voix de mon père et de ma mère à l'occasion de ma venue au monde, et qui comporte seulement une page et demie, en fait, ce qui n'est pas beaucoup. Sur la première page, c'est d'abord l'écriture de mon père qui dit « Nous sommes juin 41, nous sommes très heureux ». Nous venons de recevoir un bon gros garçon, très bien. Et puis il y a encore 2 ou 3 petites notes comme ça. Et on tourne la page, qui est donc juste le verso de la première page. Et on dit, aujourd'hui, et la date c'est 3 mois après, aujourd'hui Jacques va partir en zone libre. Voilà. Et... il n'en a jamais été question dans la famille. Jamais, jamais, jamais. C'était une sorte de tabou. Ça n'existait pas. C'est quelque chose qui n'a pas eu lieu.
Est-ce comment vous expliquez cela, cette loi du silence ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Visiblement, il n'avait pas envie d'en parler. Moi, ça m'aurait fait plaisir, enfin, comme j'ai rien compris, je n'ai rien compris, j'ai pas eu l'idée que, puisque je sais qu'au moment de la libération de Paris, j'étais de nouveau à Paris. Ça, je le sais. Donc la période entre mes 3 mois et mes 3 ans, c'est un grand trou noir, comme pour beaucoup de bébés, bien sûr. Sauf qu'après coup, et même longtemps après, je ne sais toujours pas comment j'y suis allé. Enfin, c'est pas le mode de transport, c'est pas le train ou la voiture, c'est dans quelles conditions j'y suis allé. Si j'ai été confié à une nounou, à plusieurs nounous, à une famille, si c'était à titre amical vis-à-vis de mes parents, ou si c'était payant à titre financier, je ne sais pas. J'ai certainement pas été maltraité. Il n'y a pas eu de sévices du tout. Mais ça a fait quand même un drôle de. Voilà, un gros manque. Mais un manque que j'ai pu identifier comme manque très très longtemps après. Et après, il y a eu effectivement, quand j'avais, je sais pas, 10, 11 ans, le divorce de mes parents. Et. Ma mère qui s'était sentie très malheureuse d'être abandonnée, qui est partie comme attachée culturelle à l'ambassade de France à Rio. Quand vous avez dit qu'elle donnait pas de nouvelles, c'est un peu exagéré. Elle envoyait assez régulièrement des petites cartes, même, enfin, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Mais j'étais dans des pensions diverses et variées à ce moment-là. Ah non, non, je me trompe. Non, au début, j'étais à la maison les premiers mois et après seulement, j'étais en pension, je ne sais plus où. C'est un grand mélange dans ma tête.
Et quel était le caractère de cet enfant qui était en pension? Vous avez de souvenirs de cette enfance?
J'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Ça a été une période qui. J'ai très peu. J'en ai quelques-uns au moment de la libération de Paris, justement, parce qu'en fait, j'ai fait connaissance de mon père à ce moment-là. Et je me souviens, je crois me souvenir, ou c'est un souvenir reconstitué, mais je crois me souvenir d'une promenade avec mon père au moment même de la libération de Paris. Il y avait encore des tirs, et à un moment. Mon père m'a jeté par terre et s'est mis au-dessus de moi pour me protéger. Et j'avais compris que c'était gentil, ce geste. Donc je vais avoir 3 ans et. Oui, c'est ça. Et j'avais compris que c'était un geste de protection affectueux et voilà. Et après, juste après, j'ai aussi le souvenir d'une visite chez Colette. Parce que Colette avait été ma marraine. Un petit garçon juif né en 41. Il valait mieux qu'il soit pas circoncis. Et on m'a fait un très beau baptême à la cathédrale Notre-Dame avec l'archevêque de Paris et Colette comme marraine. Je sais plus qui comme parrain, mais de temps en temps, on allait voir Colette chez elle au Palais Royal.
Et quel genre de marraine était Colette? Attentionnée, aimante?
Oh non, je crois que tout ça, c'était des relations. Plutôt mondaine avec mon père qu'avec moi. Elle était âgée, elle avait des tas de choses à faire, elle avait sa vie bien remplie, mais pas mal derrière elle quand même. Et elle me considérait comme un petit sauvageon inconnu qu'on apportait dans son salon. Et elle faisait un peu comme si c'était enfin, je sais pas, un petit singe. Elle faisait guili-guili. Il est mignon, il est joli, et puis voilà. Elle m'avait écrit, ça c'était gentil, elle m'avait écrit quelques lettres où elle me conseillait de faire des bêtises, mais des bêtises genre siècle passé, genre manger des confitures, faire des tâches, faire des escapades, etc. Voilà. Et j'ai eu quelques livres dédicacés de Colette. Si on parle de l'abandon, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières et parce que j'ai envie de pleurnicher. C'est parce que ça a eu des conséquences très importantes sur mon développement personnel. Ça m'a donné, pour très longtemps, mais plutôt définitivement, l'idée, d'abord obscure et après assez claire dans ma tête, que je valais rien. Que quelqu'un, qui est presque quelque chose, qu'on abandonne comme ça à répétition, même si après, il y a eu de l'affection, de la gentillesse, même de la tendresse, c'est sûr. Je crois que le diagnostic était fait que moi, j'avais aucun intérêt, aucune valeur, rien, que voilà. Et ça, ça m'a beaucoup handicapé parce que je l'avais intériorisé, je pensais la même chose, en fait. Je pensais que tout le monde avait raison de m'abandonner. Et j'ai eu ce problème avec les femmes toute ma vie. C'est-à-dire, je me suis pratiquement toujours mis, sauf avec ma femme, Danielle, qui était une femme absolument extraordinaire, et qui n'a pas succombé à la manœuvre, mais je me suis pratiquement toujours débrouillé pour me faire abandonner, pour confirmer que...
Comme une répétition dans un schéma...
Pour confirmer que j'étais quelqu'un qu'on devait abandonner. Ça, c'est un vrai problème.
Vous vous êtes rendu compte de cela beaucoup plus tard ou beaucoup, à quel moment de votre vie?
Beaucoup, beaucoup plus tard, en regardant mes rapports amoureux, tumultueux, tristes et répétitifs, comme une espèce de névrose d'abandon. Ouais. Et c'était assez clair que voilà.
Ce sentiment d'abandon qui vous décrivez, il a eu une incidence pendant toute votre vie. Mm-hmm. Et est-ce qu'il a eu aussi une incidence dans votre choix de profession?
Je ne sais pas. C'est drôle. Je ne me suis jamais posé cette question. Ma première réponse serait « je ne crois pas ». Parce que mon choix de profession, on aura sûrement l'occasion d'y revenir, c'est pas un premier choix, c'est... Je sais pas. Joker.
Ok, joker. Et donc, quelques années plus tard, vous êtes entré à Nipocagne, au lycée Louis-le-Grand, en 1958. Une année riche en événements, la guerre d'Algérie fait rage et les gouvernements français se succèdent au rythme de nombreuses crises. Au lycée, vous côtoyez Régis Debray, Étienne Balibar et Paul Thorez, les fils du secrétaire du Parti communiste français. Vous dites qu'il s'agissait de la cagne du siècle. Néanmoins, vous et votre camarade Paul Thorez, vous êtes renvoyés des cagnes. Pour quelle raison, Jacques Berès? Qu'avez-vous fait donc pour vous faire renvoyer des cagnes?
Oui. Avant d'arriver en cagne, là, j'ai dû être, peut-être pas le champion, mais dans le peloton de tête des renvoyés des établissements scolaires. J'ai été sûrement renvoyé une dizaine de fois de différents établissements scolaires, publics ou privés. Mes parents recevaient régulièrement des coups de fil de directeurs d'établissement disant « Écoutez, on va faire une expérience de se priver de la présence de votre fils. On va voir si ça marche, mais... »
Une jolie manière de vous renvoyer.
Mais venez le chercher dès que possible. Elles ont un peu tout essayé, mes pauvres parents. D'abord, les lycées parisiens, j'en ai fait quand même, j'ai fait Janson, Michelet. C'est tout, comme lycée avant Louis-le-Grand, dans les lycées publics, oui, j'ai fait que Janson et Michelet.
Mais vous étiez bon élève.
Bon élève. Je pouvais de temps en temps avoir des bonnes notes, parce que j'ai des neurones qui marchaient pas trop mal. C'est-à-dire, j'avais ce problème qu'ont beaucoup d'enfants, mais qui à l'époque n'était pas mis en évidence, qui n'était pas connu, qui était un peu de précocité, enfin un peu pas mal de précocité, pas ce qu'on peut appeler un surdoué, mais un maman m'a fait passer devant des psys qui ont trouvé que j'avais un QI...
élevé.
Oui, topissime. J'étais juste au-dessus de Napoléon. Enfin, Napoléon, c'est un peu abstrait, son QI. Enfin bon. Et ce qui fait que j'avais l'impression complètement fausse, mais en 5 minutes de classe, j'avais l'impression que c'était fini, que j'avais compris le cours, ce qui allait être dit, ce qu'il
Oui.
fallait en retenir, etc. Et qu'il me restait le reste de l'heure pour faire l'idiot. Et je ne me suis pas privé de faire l'idiot. Les boulettes mouillées au plafond qui devaient se. Bon, le bruit. J'ai même fait une fois une choucroute en classe. Bon, enfin, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire pour se
Ça,
faire.
c'est du jamais vu.
Si, ça a dû être vu, il y a dû y avoir pire aussi. Puisque moi, ma choucroute s'est bien passée, il n'y a pas eu d'incendie, tout va bien. Il y a dû y avoir pire. Il y a des lycées entiers qui ont brûlé, rappelez-vous, Payron, etc. Enfin bon, c'était pas facile pour les enseignants et j'avais l'impression que ça pouvait aller comme ça, puisque on me promenait d'un. Mais j'ai été au collège des Roches, je me suis fait vider, bien sûr, j'ai été dans des établissements religieux, j'ai été. Bon, voilà. Et en terminale, mon père a fait un numéro de séduction auprès du proviseur de Louis le Grand, qu'il devait connaître pour des histoires de bibliophilie, ou je pense. Et il lui a dit que ce garçon n'était pas complètement foutu, pourri, et qu'il n'était pas totalement idiot, ce qui ressortait pas de mon carnet scolaire. Hein, que, bon. Et le proviseur a bien voulu se laisser convaincre et me prendre. Et là, alors pour une surprise complète, j'ai trouvé des gens qui se servaient de leur cerveau, ce qui m'était jamais arrivé avant, en fait. C'était des élèves pas méchants, mais plutôt médiocres, dans des boîtes à bac, dans des boîtes de cancre, etc. Et de toute façon, moi, je faisais l'idiot dans mon coin et je voulais surtout pas être catalogué bon élève, chouchou de la maîtresse, rien. J'étais plutôt côté cancre, radiateur du fond et chahuteur. Voilà. Et à Louis le Grand, surprise, les gens, ils travaillaient et ils étaient intelligents, les élèves. Je me suis dit, ah tiens, c'est autre chose, c'est un très gros challenge. J'avais un retard, mais considérable, énorme. J'avais rien fait jusqu'en terminale. Voilà. Alors là, ça a été amusant. Je me suis mis à travailler et j'ai eu une vraie amitié avec Jean-Noël Jeanneney, qui était le premier de la classe avant que j'arrive. Et avec qui je me suis taillé des bourres, c'est-à-dire que de temps en temps, sur un truc, je lui mettais 2 points dans la figure, mais bon, sur le trimestre, sur l'année, il n'y avait pas photo, c'était lui le meilleur, bien sûr. Et on est resté amis longtemps, et je l'ai revu encore il y a 2 mois. Sympa, Jean-Noël.
Et les renvois donc dans cette histoire. Pourquoi avez-vous été avec Paul Torres renvoyé du lycée
Ah, oui, oh. On avait aussi bien tout fait ce qu'il fallait pour. Hein.
C'est-à-dire?
Ben, on avait comme professeur de philo M. Merleau-Ponty. Et on affectait de dormir pendant ses cours de philo. Dormir vraiment. Alors Paul Thorez s'était fait maître interne à Louis le Grand parce que chez lui, c'était difficile de travailler. Il y avait des réunions politiques tous les soirs. Et sa mère, Madame Jeannette Vermersch, bon, n'était pas commode. En plus, être interne dans un dortoir de garçons, ça lui allait tout à fait bien à Paul. Mais les internes en Cagne ont droit à un casier, un grand casier au mur, pour mettre leurs affaires personnelles. Parce que la Cagne ne se déplace pas. C'est les professeurs qui viennent à la Cagne. C'est différent. Quand vous êtes en 8e ou en 6e, vous allez en classe de chimie faire des expériences, vous allez en géographie, vous revenez, etc. Vous faites le tour du lycée. La Cagne, où les matheux, les taupes, se déplace pas, on reçoit les professeurs. Donc, il pouvait y avoir un casier. Et quand le cours de philo commençait, Paul demandait poliment la permission de se lever. Il allait à son casier en faisant du bruit avec le cadenas et sortait quatre coussins de soie sauvage qu'on posait sur notre rang et au signal, on posait les coudes sur les coussins et on dormait. Voilà. Il n'y avait pas que nous qui faisions ça, Régis aussi. Régis Debray dormait en classe, mais lui, il dormait vraiment. Nous, on faisait juste semblant. Alors, ce qui était drôle, enfin, c'est bon, c'est qu'on courait au Collège de France, 100 mètres plus bas dans la rue Saint-Jacques, pour écouter les cours de Merleau-Ponty, mais au Collège de France. Voilà. Donc, il y a eu ça, et au dernier examen blanc, au concours blanc, vous savez, avant le normal sup, il y a des concours blancs, et on a eu une disserte de philo qui devait durer 6 heures, bien sûr, c'est 8 heures du matin à 14 heures, hein, les dissertes au concours et au concours blanc, et on avait un sujet sans grand intérêt, où j'avais pas vu l'intérêt de la chose, en tout cas, je crois que c'était évolution et révolution, ce qui est bon. Évolution et révolution, on peut dire des choses, mais bon. J'étais pas inspiré, mais mes camarades de banc étaient pas inspirés. On était un banc de carré, c'est-à-dire de premier concours. En Cagne, on est carré ou cube ou archi-cube, premier, deuxième, troisième concours. Clément Rosset, par exemple, qui est mort récemment, mais qui a laissé une œuvre véritable, était archi-cube. Il avait très peur de ne pas être reçu à Normal Sup, puisqu'il s'était fait coller deux fois. Mais il avait déjà publié son propre livre de philo, en Cagne, alors qu'il devait avoir 18 ans, parce qu'il avait dû passer son bac à 15 ans, sûrement. Il devait avoir 18 ans, et il avait déjà publié aux presses universitaires de France, ce qui nous bluffait, parce qu'à l'époque, les pubs, c'était très honorifique. Et il avait publié un livre qui s'appelait « Naissance de la philosophie tragique » et qui partait de Schopenhauer, etc. Et quand Merleau-Ponty voulait engager le dialogue, parce qu'il avait son livre, un gros pavé quand même, dans les 600 pages posées sur sa table, Clément Rosset répondait « Mais monsieur, j'ai traité cette question au chapitre 14. » Voilà. L'impertinence d'un gamin de 18 ans. Bon. Alors, nous, on était un banc de carré. Il y avait donc Paul Torres, Francis Guibal qui est passé chez les Jésuites, qui a un poste important chez les Jésuites, Bernard Coustex qui a fait de la philosophie, qui lui a intégré Normal l'année d'après en changeant de lycée et qui a été enseignant à la fac de Vincennes pendant longtemps en philo. Et puis moi. Et là, dans cette dernière dissertation pour le concours blanc, vers midi, midi et demi, on s'est regardé, on a dit « mais ça n'a aucun intérêt, ça ». Bon, allez, on finit en un quart d'heure et on se tire. Donc on a écrit un quart d'heure de conclusion, n'importe quoi. On a rendu des copies une heure et demie avant la date, enfin le délai normal. Et on s'est mis au café, au soleil. Alors là, c'était formidable. C'était le mois de mai, c'était un très beau mois de mai. Les filles étaient jolies, elles avaient de jolies jambes, elles passaient devant. On était au soleil, le bonheur. Et on s'était mis à la terrasse de notre café, qui s'appelait Le Lutin, parce qu'on ne voulait pas descendre jusqu'en bas de Soufflot, Le Lutin. Et on était bien. J'avais le soleil sur la figure. Et tout d'un coup, il y a eu une ombre maléfique qui s'est interposée.
Une ombre maléfique, c'était qui ?
C'était le censeur de Louis le Grand, qui se penche vers nous et qui fait « Bonjour, messieurs les Cagneux ». « Ah, bonjour, monsieur le censeur. Mais vous n'êtes pas en concours blanc ?»« Oh, si, si, monsieur le censeur, mais c'était très bien, c'était formidable, on avait plein d'énergie, on a fini. Bon, venez dans mon bureau demain matin. » Alors, on n'est pas vidé de Cagne. Simplement, le lycée prévient Normal Sup qu'on ira au concours en auditeur libre. Bon, alors, voilà.
C'était ça votre ambition, Normal Sup. La médecine, c'était pas du tout envisageable à ce moment-là.
Alors, c'était pas mon... Oui, mon Normal Sup, oui, c'est formidable, Normal Sup. C'est formidable. Mon ambition, c'était de faire de la recherche en philo. Et j'ai eu besoin de presque 3 ans pour m'apercevoir que j'étais pas de niveau. Quand on a pas mal de prétentions personnelles, c'est un choc de se dire que non, on n'est pas de niveau. Parce qu'en CAN, il faut travailler par groupe de qui s'entendent bien et qui s'aident. Et j'avais un bon groupe, sauf qu'on passait une après-midi entière sur une page de Spinoza ou de Hegel, une après-midi entière, ou 2 pages à la rigueur, et que mes petits camarades, ils étaient frais comme des gardons, et moi, j'avais la fumée qui sortait par les oreilles, par le nez. Et ils disaient, ah, oh, on s'est bien amusé, on recommence demain. Je disais, non, les gars, demain, pour moi, c'est cinéma ou piscine, mais je peux plus la philo comme ça. Donc voilà, je me suis aperçu que j'étais vraiment pas de niveau. Donc j'aurais pu avoir une agrégue de philo, sûrement en travaillant, j'aurais pu avoir une agrégue de philo. Hein. Quand on est en CAGNE à Louis-le-Grand, si bon, on peut décrocher une agrégue de philo. Mais j'étais pas du tout de niveau pour faire une recherche personnelle ou un travail personnel, comme par exemple bon, Clément ou Régis. Voilà, donc je me suis retrouvé vidé au mois de mai. Et je me suis dit que la médecine, c'était un très beau métier, qu'on soignait les gens, que c'était formidable, et que j'allais me mettre à la quête du prix Nobel en trouvant le traitement du cancer.
En toute simplicité,
Bien sûr,
nous
bien
allons
sûr.
voir
Bien
tout ça
sûr.
demain. Merci, Jacques Béréz. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Dany Le Gras avec Jacques Berès. À voix nue, réalisation Delphine Lemaire, prise de son Nicolas Mathias, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.